Bonsoir. Environ 13 millions de Congolais vivent dans une insécurité alimentaire extrême, dont 5 millions d'enfants. Déclaration faite le week-end dernier par le représentant du programme alimentaire mondial en RDC qui a averti que les évaluations en cours montrent que la tendance à l'aggravation de l'insécurité alimentaire se poursuit en RDC. Il a aussi affirmé que la crise alimentaire qui sévit en République démocratique du Congo est la deuxième crise alimentaire dans le monde en termes de gravité après celle du Yémen. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 3 juin 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat professeur Tshibangu Kalala, ministre intérimaire de l'Agriculture. Monsieur professeur Tshibangu Kalala, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Joseph Godet-Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Monsieur Godet-Kayembe, bonsoir.
Bonsoir.
Nous aurons également un représentant du PAM dans cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions, vous auditeurs des Radio Okapi. C'est le cas de l'ingénieur Gilbert Lokwa. Cette réalité démontre que la RDC est loin d'être développée dans la mesure où un pays ne peut se développer au moment où sa population connaît une insécurité alimentaire. À mon avis, le gouvernement congolais doit faire de l'agriculture une priorité pour relever ce défi majeur. Merci de nous suivre en Mbujimayi au Kasaï Oriental sur la 93.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
13 millions de personnes vivent dans une insécurité alimentaire extrême en République démocratique du Congo et parmi eux, 5 millions sont des enfants selon les Nations Unies. À la faveur de la crise politique ces dernières années, avec la résurgence des conflits et le déplacement de la population, les conditions de vie des Congolais se sont largement dégradées, avertit le programme alimentaire mondial. Alors que le pays devrait pouvoir produire plus qu'il ne consomme, il se classe aujourd'hui deuxième, juste derrière le Yémen, dans le palmarès des plus graves crises alimentaires au monde. Les détails avec Paul Matendo.
Selon le représentant du PAM en RDC, les nombreux conflits qui secouent le pays depuis plus de deux décennies et qui ont connu une intensification depuis 2016, notamment dans l'Est et le Sud-Est, ont provoqué un déplacement dramatique des populations rurales qui vivent de l'agriculture. Les paysans en RDC mangent parce qu'ils peuvent cultiver et récolter, mais comme nous avons eu jusqu'à 4,5 millions de personnes déplacées dans ces zones rurales, ce sont des gens qui n'ont pas pu continuer à cultiver. Cela a continué pendant plusieurs saisons agricoles et la situation s'est détériorée avec le temps, a expliqué Jibidar lors de cet entretien avec ONU Info. Pour répondre à cette crise, le PAM continue de renforcer son aide alimentaire et nutritionnelle en ciblant 5,1 millions de personnes cette année, dont 1,5 million reçoivent une assistance nutritionnelle. L'agence se concentre notamment sur l'aide aux personnes déplacées en visant les sites de déplacés, mais aussi les sites de retour.
Merci Paul Matendo. Professeur Tshibangu Kalala, je rappelle que vous assumez l'intérim du ministre de l'Agriculture. Comment vous analysez la déclaration du représentant du programme alimentaire mondial lorsqu'il dit environ 13 millions de Congolais vivent dans une insécurité alimentaire extrême?
Oui, merci Madame Kelly. Je tiens tout d'abord à vous remercier vous-même, remercier toute la direction de Radio Okapi pour l'occasion que vous m'avez donnée d'intervenir dans cette émission et de parler d'un sujet d'intérêt national. Je salue également tous les auditeurs de Radio Okapi qui m'ont manqué depuis déjà quelques temps. Je ne parviens pas à converser avec eux. Madame Kelly, j'ai honte pour mon pays, d'apprendre les chiffres que le PAM est en train de communiquer concernant la situation alimentaire dans certaines parties de notre pays. J'ai honte personnelle. La RDC, notre pays, est un pays qui ne peut pas connaître ce type de situation. Dieu nous a gâtés, Madame Kelly. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, fertiles. Nous avons une capacité installée de nourrir plus de 2 milliards d'individus dans notre pays. La terre de la RDC, Madame Kelly, c'est une merveille de la nature. Nous pouvons tout produire dans notre pays. J'ai appris il y a quelque temps que notre pays peut même produire le blé, que nous importons aujourd'hui. Je ne peux pas discuter des chiffres du PAM. Que ces chiffres soient vrais ou soient faux, avec toutes les marges d'erreur qui sont compréhensibles, c'est déjà grave.
Au moins, vous reconnaissez qu'il y a.
De discuter autour de cela.
Mais est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il y a une crise, qu'il y a une crise alimentaire extrême en RDC aujourd'hui?
Je ne peux pas savoir s'il y a crise ou pas. Qu'il y ait crise ou pas, le fait même qu'on en parle, qu'on donne des chiffres aussi terribles, signifie qu'il y a déjà un problème quelque part. Et cette insécurité alimentaire, à entendre pour le PAM, est lié au conflit que nous avons connu dans notre pays au cours des dernières années. Donc il y a un lien direct entre cette insécurité alimentaire, cette crise alimentaire, pas sur l'ensemble du pays, mais dans certaines parties du pays, et c'est lié surtout au conflit armé, au désordre, au chaos social, au chaos sécuritaire que nous avons connu dans notre pays depuis quelques années. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est comment trouver des solutions à ce problème.
Ça sera la deuxième partie. Ça sera la deuxième partie de notre émission. C'est quand même étonnant, professeur. Étonnant, professeur Tubangoukalala, que vous puissiez dire que vous ne savez pas s'il y a crise ou pas aujourd'hui en RDC.
Madame Kelly, je ne veux rien savoir. Notre pays n'est pas une puissance agricole. Les problèmes de malnutrition, souvent pour les enfants, ou dans certaines parties de notre pays où l'accès à la nourriture est difficile et compliqué, et donc ce sont des problèmes qui sont compréhensibles. On ne peut pas rester dans le déni des réalités, vous comprenez? Donc ce qui est important, Madame Kelly, ce n'est pas de discuter sur la réalité ou pas de cette crise alimentaire. Chacun ira avec ses chiffres, avec ses idées, ses commentaires, pour que ce soit vrai ou faux. C'est qu'il faut dire aujourd'hui que notre pays n'a pas encore atteint le niveau de la sécurité alimentaire dans notre pays. Le problème de l'autosuffisance alimentaire, de la sécurité alimentaire, notre pays est loin du compte. Et c'est qu'il faut savoir aujourd'hui, qu'est-ce que votre gouvernement est en train de faire justement pour éviter la malnutrition, pour éviter l'insécurité alimentaire, pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire et éviter qu'à l'avenir, le PAM puisse nous donner encore ce type de chiffres. C'est ce qui est important.
Professeur,
nous allons en parler au cours de cette émission.
Exactement, on va en parler.
C'est que le gouvernement est en train de faire justement depuis que le président de la République honoraire, Joseph Kabila, a lancé le programme volontariste agricole dans la première phase, et la deuxième phase de ce programme agricole, il vient de connaître le soutien total et avec des instructions très claires du président de la République, chef de l'État, le président Félix Tshilombo, qui demande que ce programme volontariste, qui vise justement à atteindre la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, que ce programme, qu'il a inscrit d'ailleurs dans son programme de 100 jours, puisse aller de l'avant et qu'on ne puisse pas, à l'avenir, entendre ce type de chiffres sur notre pays.
Merci, professeur Tshibangoukalala. Joseph Godé Kaimbé, président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette déclaration du PAM?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. D'abord, ce qui est intéressé par la réaction du ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture est étonné de savoir que notre peuple meurt de faim, les enfants meurent de faim. Et en principe, c'est lui qui devait donner ce genre de chiffres, les statistiques, mais on lui apprend. C'est que lui-même n'a pas la maîtrise de la situation agricole dans notre pays. C'est ce qui est dramatique pour le ministre. Et c'est ça le problème pour le Congo. Si on a le ministre qui doit ignorer que la situation des enfants, la situation agricole, la situation de la nutritive de notre population est dramatique et que c'est lui qui devait prendre l'avance pour pouvoir expliquer cette situation au niveau de la communauté internationale pour demander l'intervention internationale parce qu'il y a des femmes et des enfants qui meurent de faim.
On a 5 millions d'enfants qui sont en insécurité alimentaire.
C'est dramatique pour la République. C'est dramatique. Je crois que le problème qui se pose, c'est un problème réel. Lui, il fait référence, il dit qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 18 ans? Quand aujourd'hui on se retrouve dans une situation dramatique où les enfants n'accèdent pas à la nourriture. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, la Lise Adel a fait l'appel à la communauté internationale pour aider les enfants, 700 000 enfants dans le Kasaï qui était Kwashiorkore à la suite des conflits Kamwenesapu. 700 000 enfants et qui mouraient d'ailleurs, et beaucoup sont morts, et dans la forêt abandonnée. Il y a eu la communauté internationale qui a fait appel, et nous-mêmes nous avons fait appel à la communauté internationale pour qu'on puisse aider les enfants. Et qu'est-ce que le gouvernement lui-même a fait pendant cette période?
Est-ce que vous avez fait appel au gouvernement?
Nous l'avons fait à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est comme si sur le terrain, on avait mis un mécanisme pour que tous ces enfants-là meurent. Donc, il n'y a eu aucune réaction de la part du gouvernement. S'il n'était été l'intervention de la communauté internationale à travers le fonds des Nations Unies, le fonds humanitaire des Nations Unies, beaucoup d'enfants allaient mourir. S'il n'était les interventions des ONG internationales qui ont apporté des secours, beaucoup d'enfants allaient mourir. Donc il y a eu au niveau du gouvernement aucune intervention. Et tout ce qu'ils attendaient, qu'ils apprennent que tous les 700 000 enfants sont décédés. Et ça leur ferait plaisir. Et je suis étonné et c'est malheureux pour la République. Dans un pays comme l'autre, comme le professeur l'a dit, professeur Karl, je le connais, c'est un grand intellectuel. Dans la manière dont il présente la situation, les Congolais ne peuvent pas se trouver dans cette situation. Et depuis 18 ans qu'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme effort pour empêcher pour que le Congo ne fasse un seul pas? Il y a eu beaucoup de projets agricoles qu'ils ont développés, des faux projets qui n'ont rien apporté. La preuve, c'est que tous ces projets, l'argent a fini par les poches des individus qui ont acheté des maisons et des véhicules. Et en réalité, rien n'a été fait sur terrain. Et c'est la situation que nous déplorons. Nous pensons qu'il faut que les intellectuels congolais, les ministres qui travaillent pour la République fassent un effort pour avoir un programme cohérent, puissent avoir une vision claire sur ce qu'ils veulent faire de la République pour que cette République arrive à réaliser, à produire, à être capable de produire le nécessaire afin non seulement de nourrir la population congolaise, aussi d'exporter, parce que ça se faisait à l'époque coloniale. Le Congo, c'était une référence pour le monde entier. Mais comment les Congolais, nous avons la situation, la gestion du pays? Aujourd'hui, il y a la crise alimentaire au Congo.
Et puis, ça doit faire... Parce qu'on ne fait pas de l'agriculture une priorité?
Même si on ferait la culture une priorité. Et la production qui sera produite dans le village, si je dois redire, si le villageois pouvait produire, ça sera évacué comment? Un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure routière, tous les 18 ans qu'ils ont passé, aucune route opérationnelle. Les villageois pouvaient produire comment? Même si, admettons même qu'il n'y a pas eu guerre, si, admettons que la population serait dans leurs endroits respectifs, ils produiraient pour vendre où et pour évacuer comment? Il n'y a pas de route. Donc, c'est absence d'infrastructure routière. Et là, et surtout à la base de toutes ces situations que nous traversons. Le Bas-Congo seul peut nourrir tous les Kasaï. Si il y avait des infrastructures routières qui étaient opérationnelles, les bandes ne peuvent produire. Même si les Kasaï sont dans le conflit, comme il y a eu avec Kamwenesapu, où il y a eu un déplacement de plus de 3 millions de personnes qui sont retrouvées comme réfugiées à l'étranger, même dans les forêts. Mais si les routes étaient opérationnelles, les bandes pouvaient nourrir le Kasaï. Même les bandes du Bas-Congo pouvaient nourrir le Kasaï. Mais tout c'est parce qu'ils ont passé tout le temps à mûrir des stratégies, des projets.
Vous estimez que cette situation pouvait être évitée?
Ça serait évité si ce pays avait des routes. On aurait évité cette situation. Même s'il y aurait des déplacements, on ne manquerait pas à manger. Donc je suis convaincu que le grand problème que nous avons connu, et qu'est-ce que nous connaissons? Parce que nous avons eu des autorités irresponsables qui n'ont pas pu mesurer la chose correctement pour que cette République soit dotée des infrastructures nécessaires pour permettre aux gens de produire et d'être en mesure de se prendre en charge et se fier dans la production.
Alors, lorsque le PAM dit que la crise alimentaire qui se vit en RDC aujourd'hui est la deuxième crise alimentaire dans le monde en termes de gravité après celle du Yémen, est-ce que ce n'est pas exagéré?
Ce n'est pas exagéré, madame. Quand vous déplacez la population en un seul jour, comme à l'Est, à Kalimi, vous avez 2 millions de personnes qui se déplacent, qui quittent leur village. Quand vous avez dans le Kasaï 3 millions de personnes qui se déplacent dans les forêts, qui vont à l'étranger, vous pensez que dans la saison prochaine, la production sera faite comment? Tous ces déplacements ont favorisé la crise. C'est la crise alimentaire aujourd'hui est accentuée aussi parce que les populations villageoises, j'ai dit, on a parlé de plus de 4 millions de populations qui sont déplacées, qui quittent le village pour aller dans la ville. Vous pensez que ça peut produire quoi comme effet d'entraînement? C'est parce que cette population va se retrouver dans des conditions où il ne peut pas produire. C'est là la conséquence. Donc le pouvoir actuel, le président de la République, Félix Tshisekedi, a hérité d'une situation très grave. Très grave, provoqué par son prédécesseur qui nous a mis dans cette situation-là.
Merci, Godé Kayembe. Nous attendons toujours le représentant du PAM pour participer à cette émission. Professeur Tshibangu Kalala, comment vous réagissez aux propos de Joseph Godé Kayembe lorsque, par exemple, il donne le cas du Kasaï, la Lisadel, c'est son organisation, a fait appel au gouvernement, à la communauté internationale, mais le gouvernement n'a pas réagi?
Oui, merci Madame Kelly. D'abord, je commence par saluer mon frère Kayembe. Je comprends bien son coup de gueule, sa colère, qui est une colère légitime. Je comprends très bien sa colère. Il faut que nous, dirigeants, que nous soyons interpellés, parfois violemment, hein, avec des termes assez durs, pour nous appeler à nos responsabilités. Donc, M. Kayembe a totalement raison de s'en prendre aux dirigeants. Parce que si ça ne marche pas dans un pays, ce sont les dirigeants qui sont responsables, qui gouvernent le pays. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte. La crise alimentaire, elle existe, et elle existe, comme le PAM le dit, dans certaines parties de notre pays. Il n'y a pas une famine généralisée sur l'ensemble du territoire national. Et cette crise alimentaire est liée au conflit que nous avons connu. Eh bien, on ne peut pas que c'était pendant la guerre. On a les conflits. C'est tout à fait compréhensible. Et M. Kayembe le comprend parfaitement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas dire que la situation d'aujourd'hui date d'il y a 5 ans ou 6 ans. C'est depuis des décennies que nous n'avons pas développé l'agriculture dans notre pays. On a passé notre temps à lancer des slogans « agriculture, priorité des priorités ». Mais tout ça, ce ne sont que des paroles, des discours. Il faut passer aux actes. Il faut agir sur la. Je vais peut-être choquer encore M. Kayembe, je vais lui donner un autre chiffre, comme ça il va encore se fâcher davantage. Eh bien, je parlais il y a quelques jours, pratiquement 2 ou 3 semaines, avec la haute direction de la Banque centrale de notre pays. Je posais la question de savoir combien nous dépensons de l'argent, Mme Kelly, pour importer la nourriture, pour venir nourrir les Congolais. Parce que nous dépendons beaucoup des importations de produits alimentaires. Ce que vous trouvez dans toutes les alimentations sur l'ensemble de notre pays. Eh bien, les chiffres qui m'ont été donnés par la Banque centrale m'ont fait croire. Nous dépensons chaque mois, en moyenne, 410 millions de dollars d'importation de nourriture. Et vous multipliez par 12 mois, chaque année, nous dépensons à peu près 5 milliards de dollars, je dis bien, 5 milliards de dollars qui sortent de notre pays pour aller acheter la nourriture à l'étranger, et venir nourrir les Congolais. En d'autres termes, nous finançons l'agriculture, la pêche et l'élevage d'autres pays. Et donc, il faut inverser. C'est pour dire, madame...
À qui la faute?
Que c'est vrai. Écoutez, moi je considère, et c'est un bambage, hein, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Nous n'avons pas investi dans l'agriculture. L'agriculture, c'est la base du développement. L'agriculture, c'est le secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Avec l'agriculture, on peut sortir des millions de Congolais de la pauvreté, du chômage, de l'insécurité alimentaire, de la crise alimentaire. comprenez. Donc, je ne vois pas d'autre solution dans notre pays. S'il faut réduire de manière drastique le chômage des jeunes, le chômage tout court, réduire justement la pauvreté qui est le plus grand danger, c'est ça, qui détruit notre peuple aujourd'hui, c'est par l'agriculture, par l'agro-industrie. Donc, nous devons industrialiser notre pays par le biais de l'agriculture. Il n'y a pas d'autre chose. Le peu d'argent que nous pouvons avoir dans les mines, le cobalt, le cuivre, etc., il faut prendre une bonne partie de cet argent, mettre dans l'agriculture. Et l'agriculture, justement, on l'a dit, M. Kayem a parfaitement raison, on ne va pas cultiver si on ne sait pas effectuer ce qu'on a produit. Et donc, mettre l'argent dans, dans des infrastructures qui vont soutenir la, la production agricole et faire tout pour que, comme on le demande au niveau de l'Union africaine, que le budget, les dépenses publiques de chaque pays membre de l'Union africaine, de la RDC en particulier, que nous puissions atteindre au moins 10% du budget national consacré à l'agriculture. C'est de cette manière-là, M. Kayembe, je comprends votre coup de gueule, votre colère, qui est tout à fait légitime. Vous ne pouvez qu'interpeller les dirigeants de votre pays, et vous ne pouvez que taper sur eux, c'est tout à fait normal, parce que c'est eux qui doivent trouver des solutions par la population. Et donc, pour résumer, Mme Kelly, c'est un sujet très important. La RDC peut nourrir toute l'Afrique. Et on ne peut pas accepter que la RDC, qui est un château d'eau, nous avons de l'eau en abondance dans notre pays. Nous avons le soleil en abondance dans notre pays. Nous avons une terre qui est une merveille de la nature. On peut tout produire dans notre pays.
Alors, tout ça est bien beau, Monsieur le ministre, mais qu'est-ce qu'on en fait?
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas refaire le passé, Madame Kelly. On ne va pas refaire le passé.
Merci. Professeur, merci. Je vous redonne la parole.
Investir massivement dans l'agriculture. Et je veux vous dire, ce que le gouvernement a commencé à faire, est en train de faire, et que le prochain gouvernement va poursuivre.
Alors, vous allez nous dire ça tout à l'heure. Vous allez nous dire ça tout à l'heure, professeur Tubangou Kalala, ministre intérimaire de l'agriculture, Godé Kayembe. Est-ce que cette situation ne peut pas s'expliquer par les guerres qu'on a eues, déplacement de la population, pour qu'on en arrive
la situation qui traverse la RTC, elle est consécutive à la politique internationale. Parce qu'en fait, parfois nous-mêmes nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans une situation en train de tournoyer en rond. Depuis que le Congo a été considéré comme un champ de café pour les multinationales, ils ont pensé qu'il fallait que le Congo soit comme une ferme, sans route, sans quoi que ce soit. Je vais vous surprendre lorsque je vous dis que le contrat chinois qui a fait beaucoup de problèmes à M. Kabila, c'est parce qu'à l'issue de ces contrats, il y avait des routes. L'Occident pensait que le Congo devait rester comme à l'état naturel pour mieux l'exploiter. Toute initiative de pouvoir construire les routes devrait être attaquée. Donc, en fait, le professeur aussi n'a pas compris parce que c'est la préoccupation. Parce qu'en fait, nous faisons la politique sans savoir exactement qu'est-ce qui est caché derrière la pensée de ceux qui travaillent avec nous. La Banque mondiale a investi de l'argent dans ce pays. Vous ne verrez jamais la Banque mondiale donner de l'argent pour construire des routes des serres agricoles. Il va vous donner un peu d'argent pour entretenir les routes, pour transporter les marchandises, les barques Congo ici, mais jamais envisager construire des gants de route. Vous allez voir l'Union européenne qui va vous donner l'argent dans ce pays, jamais envisager investir dans les routes. Tout c'est parce que le Congo devait rester comme une ferme. Je dois aussi vous surprendre, l'Occident ne voulait plus que M. Félix Étienne Tshisekedi accède au pouvoir. Parce que lorsqu'il prend le pouvoir, le Premier ministre, la première question qu'on lui a posée, on lui dit, mais Monsieur le Président Tshisekedi, Monsieur le Premier ministre Tshisekedi, quelle est votre priorité? Le jour où il a dit que ce sont les routes qui sont la priorité, des priorités pour moi, c'est ce jour-là, on a écrit dans le carnet noir, ce monsieur ne prendra jamais le pouvoir. Parce que les routes, c'est le développement du pays. Un pays sans route, c'est un pays voué à la mort. Une fois, quand j'ai suivi le Matata parler de l'émergence du Congo, je disais que c'est une sorcellerie. On ne peut pas s'imaginer à l'émergence dans un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'école. C'est une folie, tout simplement. Donc, le problème au Congo, c'est que les gens ne comprennent même pas qui le tourne en rond et qu'est-ce que nous devons faire. Je suis quand même content parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un peu indépendants. Et le président actuel a la chance de pouvoir diriger ce pays avec sa pensée propre, avec la pensée des Congolais, et imaginer des choses à faire. Et surtout qu'il a pensé qu'il faut investir suffisamment dans les routes. Parce que si on a des routes, on se développe. Il n'y a pas autre alternative. Cette histoire de famine va s'y régler de manière automatique lorsqu'on a des routes. Donc on ne peut pas imaginer, même si le professeur parle de l'investissement dans le secteur agricole, on va investir, on va l'évacuer. Comment? C'est la question la plus importante. Donc le plus important pour l'instant, c'est imaginer comment nous pouvons, dans peu de temps, investir suffisamment de moyens pour que les villes et les villages soient reliés. De telle sorte que
ça sera là,
on passe face
les pistes des solutions.
Oui.
Joseph Godet Kaimbe, nous devrions avoir le PAM dans cette émission. Malheureusement, il vient de décliner l'invitation. Donc, on va poursuivre cette émission sans le PAM. Le PAM qui avait fait cette déclaration pour dire environ 13 millions de Congolais vivent dans une insécurité alimentaire, dont 5 millions d'enfants. Professeur Tshibangu Kalala, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous écrit de Kinshasa, qui nous appelle de Kinshasa.
Pasteur Paul Ngoyi à Kinshasa, Mongafula. C'était prévisible à mon avis. Il venait de se débarrasser avec certains groupes d'armées et des milices qui mettaient en difficulté la population et le gouvernement à ne pas vivre aisément dans la paix et avoir une sécurité sûre. Poussant plusieurs familles à fuir leurs habitations et laissant à leur passage le champ, l'élevage pour se réfugier en brousse alors que toute leur vie s'est passée la pêche et l'élevage. Je suis tout à fait d'accord avec le représentant du Programme alimentaire mondial pour son alerte, car c'est du plus, et c'est plus eux qui contrôlent les zones les plus touchées et les chiffres qu'ils avancent ne peuvent qu'être réels, mais tout reste à vérifier sur le terrain par les experts du ministère concerné. La question qu'on se pose et dont on se demande, le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage est-il au courant de cette de la crise que les PAM a menée.
Alors, je crois que vous avez déjà répondu à cette préoccupation, professeur Tshibangu Kalala. Notre auditeur a pris sûrement l'émission en cours. Mais que pensez-vous de sa réflexion?
Oui, madame Kelly. D'abord, avant de répondre à l'auditeur, je vais parler un peu à mon frère Kayemba. Monsieur Kayemba, vous avez raison d'insister sur les infrastructures. Un penseur occidental européen a dit un jour que route égale civilisation. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de civilisation. C'est la barbarie, c'est la forêt, on est dans le temps de la jungle. Route égale civilisation. Donc, il n'y a personne qui est contre, en principe, la construction des routes dans notre pays. C'est très important. Mais dès que nous avons les routes, il faut savoir ce que nous allons transporter sur ces routes. Donc, la production. Il faut produire ce qu'on va transporter sur les routes. Donc c'est lié. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire dans le cadre du programme volontariste agricole, je vais en parler, où nous avons combiné production agricole, qu'il faut augmenter, mais construire également des voies de communication, des routes de dessertes agricoles pour transporter et évacuer ce qu'on a produit vers les centres de consommation. On va en parler. Mais pour revenir à l'exploitation du groupe, il a parfaitement raison. Je pense qu'il ne faut pas sortir du cadre du rapport du PAM. Le PAM a été clair, il y a crise alimentaire, c'est vrai, problème de malnutrition pour les enfants, c'est vrai, mais tout ça c'est lié au conflit que nous avons connu dans notre pays depuis un certain temps. On voit bien que c'est le centre du pays, avec le Kasaï, le phénomène Kamuinansapu, eh bien ce n'est pas le gouvernement qui a créé ce problème de Kamuinansapu, qui a demandé aux populations de s'entre-déchirer entre elles. Comprenez, ce sont des conséquences de ces conflits. Dans le nord Kivu, dans ce Kivu, c'est ce problème d'Alitouri qui est lié également au conflit armé, de désordre, de l'anarchie qui a régné dans certaines parties de notre pays. Mais ce n'est pas un honneur pour nous, Madame Kelly, d'apprendre qu'il y a des millions de nos compatriotes qui ne mangent pas à leur faim et qui meurent de faim, des enfants mal nourris. Ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Mais ce qu'il faut faire...
Quelle est la solution, professeur Tshibangu Kalala?
On ne va pas passer notre temps à faire des jérémiades, à pleurer, à organiser le deuil et tout ça. Mais non, M. Kayembe, je vous demande que nous puissions, vous, société civile, gouvernement, dirigeants, que tous nous puissions nous mettre debout maintenant pour dire qu'il ne faut pas qu'à l'avenir qu'on rencontre encore ce type de problème. Qu'on dise que les gens meurent de faim en RDC. C'est une honte. Ça, ce n'est pas un pays qui peut avoir ce genre de problème. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est pas des discours, c'est des actions. Il faut agir, Madame Kelly. Moi, j'entends ce discours de agriculture, priorité des priorités. J'étais à l'école primaire à l'époque du maréchal Mobutu. Retroussons les manches et agriculture, priorité. J'étais adolescent, gamin. Et je n'aime plus entendre cette phrase-là. Agriculture, priorité. Je vais voir les actions concrètes de l'État.
Oui, agir en faisant quoi?
Agir en faisant quoi? Bonne question. Les gens n'investissent pas. Si vous comptez sur les particuliers, les privés, pour investir dans l'agriculture, c'est des problèmes. C'est un secteur qui n'est pas très rentable. Et les gens n'aiment pas prendre beaucoup de risques dans ce domaine. C'est vrai. Nous avons des banques commerciales qui ne donnent pas de crédit pour financer le crédit agricole, pour aider les gens à aller dans l'agriculture. Il n'y a aucune banque aujourd'hui qui peut vous donner de l'argent pour vous lancer dans l'agriculture. On n'a pas des banques de développement. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut que le gouvernement lui-même prenne le devant. Que l'État montre la voie à suivre. Que l'État investisse massivement dans l'agriculture. C'est une obligation internationale que nous avons assumée dans le cadre même de l'Union africaine. Avec la déclaration de Malabo de 2014. Nous devons faire en sorte, et il faut que le gouvernement qui sera mis en place dans quelques jours, que ce gouvernement prenne ce problème à bras le corps. Il faut qu'au moins 10% du budget de notre pays soit consacré à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les moyens limités que nous avons, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Avec le président de la République, honoraire Joseph Kabila, et aujourd'hui, dans le cadre d'une belle continuité républicaine, pour le bien commun, pour l'intérêt général, le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, est allé dans le même sens. Il a demandé qu'on poursuive ce programme sans désemparer. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Le gouvernement a sorti à peu près 139 millions de dollars. J'ai dit bien 139 millions de dollars. Pour investir dans l'agriculture. Et ce programme, c'est le programme volontariste agricole. Quels sont les objectifs de ce programme, Madame Kelly?
Rapidement, professeur.
Permettre à notre pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, au moins pour les trois produits de base de consommation courante. Le maïs, le riz, le manioc. Et comme les agronomes nous le répètent tous les jours, avec leur technique d'assolement, donc de varier les cultures, on va faire aussi plantation des haricots, des patates douces, etc., pour justement augmenter la production agricole nationale et permettre à ce que les grands centres de consommation de notre pays, les grandes villes, ne puissent pas connaître des pénuries. Et ce programme qui est en train d'être expérimenté dans six provinces, on va l'étendre dans les autres provinces, les 26 autres provinces. Nous avons commencé dans six provinces.
Lesquelles?
Ça commence à monter. Quelles sont ces provinces? Il y a le Congo central, territoire de l'Ouzi, en Kondi. Là, ça sera la production du riz.
Deuxième province.
Au moment où je vous parle.
Professeur, est-ce que vous pouvez nous citer juste les provinces rapidement dans lesquelles vous avez lancé le programme?
Kinshasa, après le Congo central, nous avons Kinshasa, plateau de Batéké à Mongata. Nous avons le Haut-Lomami, territoire de Kanyama, Kanyama Kasséché, dans les environs, Haut-Lomami. Nous avons le Kasaï oriental, le site de Tshilenge, en Kwadi. Nous avons le Sud Kivu, la plaine de la Ruzizi. J'étais moi-même dans la plaine de la Ruzizi à Lubérizi, Kamanyola,
Lubundi,
etc. Et enfin, nous avons le Kasaï central. Et au Kasaï central, j'étais dernièrement
le
groupement des Chapula et Salushimba, justement,
merci.
Où nous allons produire encore le maïs.
Merci. Donc, professeur, je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole, professeur Tshibangu Kalala. Joseph Godempoyo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Bénédiction Migre de Bukavu aussi Kivu. Cette déclaration du représentant du programme alimentaire mondial qui démontre clairement l'ampleur de la sécurité alimentaire à la République démocratique du Congo est une situation tellement honteuse pour toute la communauté congolaise en général, et en particulier le décideur. D'autant plus que la RDC est qualifiée, selon certaines recherches, d'envergure internationale comme un scandale géologique et agricole capable de nourrir toute l'Afrique. Il serait donc important que les dirigeants actuels puissent prendre au sérieux cette épineuse question d'organiser les états généraux sur l'agriculture dans toute sa diversité, animés par les experts à la matière qui seront évidemment capables de concevoir un plan cohérent pour tout pour la transformation du potentiel agricole que le pays possède en richesse réelle. Et là, je crois que cette nation sortirait tête haute dans cette liste noire des pays à l'insécurité alimentaire.
Il propose quelques pistes pour sortir de cette insécurité alimentaire. Vous êtes d'accord avec lui, Goudé Kaimbé?
Je pense qu'il n'a pas tort. Je vois qu'il n'a pas tort. Lorsqu'on doit pour régler le problème agricole, organiser des ateliers. Est-ce que réellement on a besoin des ateliers dans ce pays pour organiser organiser l'agriculture? Je crois que le problème qui se pose actuellement, et je suis convaincu, parce que généralement, lorsque nous avons des problèmes au Congo, on s'attaque à la cause, mais on s'attaque pas, on s'attaque plus aux effets et non pas à la cause. Et je disais que les gens de Kivu, par exemple, ne pouvaient jamais avoir la crise alimentaire. Si cette population était dans la sécurité, ils produiraient normalement. Beaucoup de la population qui était dans le village a vidé le village, s'est retrouvée en ville. Ça pose des problèmes quand les femmes se descendent dans la forêt, elles sont violées, parfois tuées. Donc ça fait que cette situation a perduré pendant longtemps. Et ça a créé la situation que nous avons aujourd'hui. Pour régler le problème de l'Est, on n'a pas besoin de faire un atelier. Pour régler le problème de l'Est, il faut sécuriser la population. Ça, c'est un autre problème. Il faut sécuriser la population. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour sécuriser la population, pour que les femmes rentrent dans le village et commencent à cultiver les hommes. Ça va permettre à ce que les Kivu puisse pas avoir ce genre de problème. En attendant que cela, qu'on arrive à tout ça, parce qu'il y a 13 millions de personnes qui sont mourantes. Les personnes là vont mourir. Le temps de cultiver, ils vont tous mourir. Le président de la République, à travers le Premier ministre, s'adresse aux Nations Unies pour qu'on puisse fournir la nourriture pendant une année dans les contrées où il y a la crise économique, crise alimentaire, en attendant que la population prenne l'initiative de commencer à produire. Sinon, tous les 13 millions vont mourir. Deuxièmement, dans le territoire où il n'y a pas de route. Parce qu'aujourd'hui, le professeur dit qu'on peut mettre 10% de notre budget dans l'agriculture. On y met 10%. Mais le 10% qu'on y mettra ne pourra pas produire des effets escomptés. Parce que quand on va produire, on ne saura pas l'évacuer. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de façon routière pour prendre des produits dans le village, le ramener dans le centre-ville. Il n'y en a pas. Donc la première chose, il faut y mettre assez de moyens, mettre le boucher double, pour que les routes des sites agricoles soient accessibles et en même temps apporter les moyens pour que l'agriculture reprenne. Je pense que la première chose qui est essentielle pour décanter la situation maintenant, c'est de faire l'appel à la communauté internationale pour que le coin où les gens ne mangent pas, qu'on puisse nous fournir à manger pendant une année. Et pendant ce temps-là, l'État s'organise pour ranger les routes des sites agricoles, en même temps appuyer les gens pour que l'agriculture reprenne. Et en même temps aussi, sécuriser l'Est pour permettre aux femmes, aux hommes, de rentrer dans leur village et commencer à produire. Et pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas produire affamés, ils produisent en mangeant le produit que nous aurons obtenu de l'appui de la communauté internationale. Alors c'est de cette manière-là.
Mais on a déjà le PAM qui renforce son aide alimentaire.
Il a la capacité de nourrir 1,5 million. Maintenant, 1,5 million sur 13 millions, ça fait 10%. Les restes des personnes vont mourir. Donc il faut que c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui doit s'adresser à la communauté internationale, aux Nations Unies, que dans mon pays, nous sommes en crise. 13 millions de personnes vont mourir. Apporter l'aide pour cette population. Vous allez voir des bateaux et des bateaux qui vont venir avec la nourriture pour envoyer dans des provinces. Mais d'ailleurs, encore il y a un problème. Comment ça va arriver dans un pays où il n'y a pas de routes? C'est toujours compliqué. Donc voilà pourquoi j'ai dit que la priorité des priorités, ce sont les routes. Deuxièmement, imaginez apporter lorsque les routes sont déjà mises en vue, construites, en même temps, on peut donner le moyen des tracteurs et d'autres, parce que quand il y a des tracteurs, on les donne aux personnes qui n'ont rien à faire. Et quand il y a même l'argent dont il parle, les 130 millions, on donne à qui pour pouvoir apporter, faire l'agriculture dont on a besoin. Et vous allez remarquer que sur 130 millions qu'on a donné, 60 ou 80 millions est déjà dans la poche des individus. Donc, en réalité, le travail ne s'est fait pas correctement. Il faudrait que les choses soient éclaircies à ce niveau, afin de permettre à ce que les chefs...
On va prendre rapidement pour vous cette dernière réaction, ouais. Godet Kaimé.
Souk Mouidiroua à partir d'écologie. Il est vrai que notre pays connaît un problème d'insécurité alimentaire suite à plusieurs éléments, notamment la mauvaise gouvernance, un délaissement du secteur agricole, une existence des routes à dessertes agricoles, les conflits ethniques et autres situations d'insécurité liées à la présence des groupes armés qui font de cette insécurité alimentaire une urgence à laquelle le gouvernement est appelé impérativement à s'y pencher. Cependant, ce classement fait par les PAM est un peu dramatisant, car je ne pense pas que que la RDC soit le deuxième pays au monde où le taux de malnutrition est trop élevé par rapport même à certains pays qui ont été sérieusement décimés par la guerre et autres catastrophes naturelles, mais non citées, comme la Syrie, l'Haïti ou même la Somalie. En fait, l'interpellation faite par le PAM en ce qui concerne notre pays est bien fondée. Mais
alors, réaction rapidement, ça sera aussi votre conclusion.
Oui, notre ami, si le ministre de la République qui s'occupe de l'agriculture ne connaît pas la situation alimentaire de notre pays, comment un citoyen congolais peut-il avoir cette information? Est-ce qu'il a documenté? Donc, il faut toujours contredire lorsque vous avez documenté. Les gens qui donnent ces chiffres ont documenté la situation au niveau de chaque province et ils ont la situation. Mais toi, tu es dans ta ville, tu manges du foufou, tu crois que la situation que tu connais est générale. Donc, il ne faut jamais contredire les chiffres quand vous n'avez pas la preuve contraire. Donc, deuxièmement, je souhaite demander à ce que dire à notre gouvernement de la République, au chef de l'État, qui a la volonté et la détermination, parce que je les lis dans ses yeux, et ce qui nous a manqué. Parce que le pays, le Congo, avait besoin d'un président de la République. Cette fois-ci, nous avons un président. Et nous croyons qu'avec la détermination qu'il a, nous avons l'obligation, les techniciens, de l'entourer, de lui donner les idées pour qu'il réalise sa vision. Parce que le chef de l'État n'est pas un magicien. Merci. Mais ce qui est pour nous important, c'est la détermination et la volonté politique.
Merci Godet Kaimé, professeur Tshibangu Kalala, ministre intérimaire de l'agriculture. Votre conclusion, professeur, nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, madame Ekiri, je voudrais corriger quelque chose en chef de M. Kayembe. Comme il a dit lui-même, il ne faut pas dire des choses si vous n'avez pas de preuves. Donc je ne suis pas d'accord avec son affirmation selon laquelle sur les 139 millions de dollars, il y a presque la moitié, les 20 millions sont dans la poche des gens. Il ne connaît pas comment ce programme fonctionne sur la base des crédits fournisseurs. S'il veut une autre émission sur ce programme, je suis disposé à revenir sur la radio Capitale pour qu'on en parle et que je donne des détails. Donc il ne faut pas lancer une telle contre-vérité dans l'opinion. Ça, c'est un. De deux, M. Kayembe, je suis d'accord avec vous que vous puissiez provoquer votre gouvernement. Il faut secouer le gouvernement pour que nous puissions jouer notre rôle de guide, pour que nous puissions prendre de bonnes décisions dans notre pays pour éviter qu'il y ait des problèmes demain.
Merci, professeur Tshibangu Kalala. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.